William Shakespeare, La Sauvage apprivoisée, acte 4, scène 1. Chez Petruchio, entre Grumio. Grumio. Foin, foin de toutes les rosses éreintées, de tous les maîtres extravagants et de tous les mauvais chemins. Y eut-il jamais homme aussi étrié, aussi crotté, aussi harassé que moi? Je suis envoyé en avant pour faire du feu et ils vont arriver pour se chauffer. Si je n'étais pas une petite cruche qui devient chaude aisément, mes lèvres pourraient bien se geler à mes dents, ma langue à mon palais et mon cœur à ma bedaine avant que j'aie du feu pour me dégeler. Mais je vais me réchauffer en soufflant le feu. Car, vu le temps qu'il fait, un homme plus grand que moi attraperait aisément un rhume. Hola, oh! Curtis! Entre Curtis. Curtis. Qu'est-ce qui appelle de cette voix transie? Grumio. Un monceau de glace. Si tu en doutes, tu peux glisser de mon épaule à mon talon, rien qu'en prenant ton élan de ma tête à mon cou. Du feu, mon Curtis. Curtis. Est-ce que mon maître et son épouse viennent, Grumio? Oui, oui, Curtis, oui. Du feu, donc. Du feu. Et ne jette pas d'eau dessus. Curtis. A-t-elle la tête chaude, comme on dit? Grumio. Elle l'avait, mon Curtis, avant cette gelée-là. Mais, tu le sais, l'hiver dompte l'homme, la femme et la bête. Car il a dompté mon vieux maître, ma nouvelle maîtresse, et toi-même, camarade Curtis. Curtis. Oh, diable, pantin de 3 pouces, je ne suis pas une bête, moi. Grumio. Pantin de 3 pouces, allons, les cornes que tu portes ont bien un pied de long, et je suis pour le moins aussi auquel. Ah, ça, veux-tu nous faire du feu, ou faudra-t-il que je me plaigne de toi, notre maîtresse? Tu vas recevoir de sa main de froides caresses si tu es si lent à faire ta chaude besogne. Curtis. Je t'en prie, mon Grumio, dis-moi comment va le monde. Grumio. Bien froidement, Curtis, en dehors de ton office d'allumeur. Allons, messire, fais ton devoir pour avoir ton dû, car mon maître et ma maîtresse sont presque morts de froid. Curtis. Il y a du feu préparé. Ainsi, mon Grumio, donne-moi des nouvelles. Grumio. Autant de nouvelles que tu voudras sur l'air de Jaco, hola Jaco. Curtis. Allons, tu aimes toujours attraper les gens. Grumio. Non. Je n'ai attrapé qu'un froid extrême. Du feu, donc. Où est le cuisinier? Le souper est-il prêt? La maison décorée? Les nattes étendues? Les toiles d'araignée balayées? Les gens sont-ils dans leurs futaines neuves et dans leurs bas blancs et tous les officiers de bouche ont-ils leurs habits de noces? Nos dames Jeanne sont-elles belles en dedans et nos Jeannetons sont-elles belles en dehors? Les tapis sont-ils posés et tout est-il en ordre? Curtis. Tout est prêt. Ainsi, je t'en prie, quoi de nouveau? Grumio. D'abord, tu sauras que mon cheval est épuisé, et que mon maître et que ma maîtresse sont tombés. Curtis. Comment? Grumio. De leur selle, dans la boue. Ah, c'est une longue histoire. Curtis. Conte-nous-la, bon Grumio. Grumio. Approche ton oreille. Curtis. La voici? Grumio lui donnant une gifle. Tiens! Curtis. C'est ce qui s'appelle sentir une histoire. Ce n'est pas l'entendre. Grumio. C'est le moyen de rendre une histoire sensible. Cette taloche n'était que pour frapper à ton oreille et la prier d'écouter. Maintenant, je commence. In primis, nous avons descendu une côte épouvantable, mon maître étant en croupe derrière ma maîtresse. Curtis. Tous deux, sur un seul cheval? Grumio. Qu'est-ce que ça te fait? Curtis. Ça fait beaucoup au cheval. Grumio. Alors raconte-toi même l'histoire. Si tu ne m'avais pas interrompu, tu aurais appris comme quoi le cheval est tombé, et elle sous le cheval, et dans quel bourbier. Tu aurais appris comme quoi elle était toute souillée, comme quoi il l'a laissée avec le cheval sur elle, comme quoi il m'a battue parce que son cheval avait bronché, comme quoi elle a pataugé dans la bourbe pour l'arracher de moi, comme quoi il jurait, comme quoi elle priait, elle qui n'avait jamais prié, comme quoi je criais, comme quoi les chevaux se sont échappés, comme quoi la bride qu'elle tenait s'est rompue, comme quoi j'ai perdu ma croupière, et mille autres choses mémorables qui vont mourir dans l'oubli, tandis que toi, tu rentreras dans ta tombe avec toute ton ignorance. Curtis. À ce compte, il est plus intraitable qu'elle. Grumio. Oui, et c'est ce que toi et le plus faro d'entre vous reconnaîtrez quand il sera de retour. Mais à quoi bon te lire tout ça? Appelle Nathaniel, Joseph, Nicolas, Philippe, Walter, Biscuit et le reste. Que leurs cheveux soient bien lissés, leurs habits bleus bien brossés et leurs jarretières bien uniformes. Qu'ils fassent la révérence de la jambe gauche et qu'ils ne s'avisent pas de toucher un poil de la queue du cheval de mon maître avant d'avoir baisé leurs mains. Sont-ils tous prêts?
Courtis.
Tous?
Grumio.
Appelle-les.
Courtis appelant.
Hola, entendez-vous? Il faut que chacun de vous aille au-devant de mon maître pour faire son salut à ma maîtresse.
Grumio.
Son salut? Elle peut bien le faire toute seule.
Courtis.
Qui le nie?
Grumio.
Toi, il paraît. Tu invites la compagnie à lui faire son salut.
Courtis.
Je l'invite à rendre à madame l'honneur qui lui est dû.
Grumio.
L'honneur? Elle l'avait donc perdu, s'il faut qu'on lui rende.
Entre plusieurs valets. Nathaniel.
Bienvenue, Grumio.
Philippe.
Comment va, Grumio?
Joseph.
Eh bien, Grumio.
Nicolas.
Camarade Grumio.
Nathaniel.
Comment va, vieux?
Grumio.
Bienvenue, toi. Comment va, toi? Te voilà, toi. C'est toi, camarade. Voilà les bonjours finis. Maintenant, mes gaillards, tout est-il prêt? Tout est-il nettoyé?
Nathaniel.
Tout est prêt.
À quelle distance est notre maître?
Grumio.
À deux pas. Il est déjà à bas de cheval. Ainsi, ne soyez pas... Tudieu, silence! J'entends mon maître.
Entre Petruchio et Catarina.
Petruchio.
Où sont donc ces drôles? Quoi? Personne à la porte pour tenir mon étrier et emmener mon cheval? Où est Nathaniel, Grégoire, Philippe?
Tous les valets.
Voilà, voilà, monsieur! Voilà, monsieur!
Petruchio.
Voilà, monsieur! Voilà, monsieur! Voilà, monsieur! Voilà, monsieur! Tête de bûche! Grossier palefrenier que vous êtes! Quoi? Plus de service, plus d'attention, plus de respect. Où est le stupide drôle que j'avais envoyé devant?
Grumio.
Me voilà, monsieur. Aussi stupide que devant.
Petruchio.
Manon, fils de putain, cheval de barbe et de somme. Est-ce que je ne t'avais pas dit de venir me trouver dans le parc et d'amener avec toi tous ces chenapans-là?
Grumio.
Monsieur, l'habit de Nathaniel n'était pas tout à fait fini et les escarpins de Gabriel étaient tout décousus aux talons. Il n'y avait pas de torche allumée pour noircir le chapeau de Pierre, et la dague de Walter n'avait pas encore de fourreau. Il n'y avait d'équipés qu'Adam, Ralph et Grégoire. Les autres étaient déguenillés, fripés et misérables. Mais tels qu'ils sont, les voilà tous venus au-devant de vous.
Petruchio.
Allez, coquin, allez me chercher à souper.
Quelques valets sortent, ils chantent.
Où est la vie que je menais?
Où sont ces... Asseyez-vous, Catarina. Et soyez la bienvenue.
Il s'assit.
Ouf, ouf, ouf.
Les valets reviennent apportant le souper.
Eh bien, dépêchons-nous. Voyons, ma bonne et douce gâteau. Soyez gai. Ôtez-moi mes bottes, chenapan, gueux que vous êtes. Dépêchons.
Et chante.
C'était un moine de l'ordre gris qui se promenait sur la route.
Il tend une de ses bottes à un valet qui le déchausse.
Oh, diable, chenapan, tu me tords le pied. Attrape.
Il le frappe.
Apprends à mieux tirer l'autre. Soyez gai, Cato. Hola, de l'eau. Où est mon épagneul, Troilus? Faquin, décampe. Et dis à mon cousin Ferdinand de venir ici.
Un valet sort.
C'est quelqu'un, Cato, qu'il faudra que tu embrasses et que tu connaisses. Où sont mes pantoufles? Aurais-je enfin de l'eau?
On lui présente une cuvette.
Allons, Cato. Lavez-vous et soyez la bienvenue. Là, à cœur ouvert.
Frappant un valet qui a laissé tomber les guières.
« Comment, misérable fille de garce, tu la laisses tomber ?»
Catarina.
« Patience, je vous en prie, c'est une faute involontaire. »
Petruchio.
« Fils de putain, tête de maillet, coquin à longues oreilles. Allons, Cato, asseyez-vous. Je sais que vous avez de l'appétit. »
Ils se mettent à table.
« Voulez-vous dire les grâces, Cato, ou bien les dirai-je »« Qu'est-ceci, du mouton ?»
Premier valet.
« En effet. »
Petruchio.
« Qui l'a apporté ?»
Premier valet.
Moi?
Petruchio.
Il est brûlé, comme toute votre viande. Chien que vous êtes. Où est ce gueux de cuisinier? Comment, maroufle, avez-vous osé apporter ça du fourneau? Et le servir ainsi, à moi qui ne l'aime pas. Allons, remportez cela. Assiette, verre et tout.
Il jette sur la scène tout ce qui est sur la table.
Et tourneau, butor, manant, mal appris que vous êtes. Quoi, vous murmurez? Je suis à vous tout à l'heure.
Catarina.
Je vous en prie, cher mari, ne vous agitez pas ainsi. Cette viande était bonne, si vous vous en étiez contenté.
Petruchio.
Je te dis, Cato, qu'elle était brûlée et desséchée. Il m'est expressément défendu de la manger ainsi, car elle engendre la colère et enracine la fureur. Étant tous deux assez colériques par nature, il vaudrait mieux pour nous rester à jeun que de nous nourrir ainsi de viande par trop cuite. Prends patience, demain on fera mieux. Et pour ce soir, nous jeûnerons de compagnie. Bien,
Je vais te conduire à ta chambre nuptiale.
Petruchio et Caterina sortent, suivis de Curtis.
Nathaniel, s'avançant.
Pierre, as-tu jamais vu rien de pareil?
Pierre,
il la massacre avec sa propre humeur.
Revient Curtis.
Grumio,
où est-il?
Curtis,
dans la chambre de madame, à lui faire un sermon de continence. Et il peste et il jure et il gronde si bien qu'elle, la pauvre âme, ne sait plus comment se tenir, regarder ni s'exprimer, et reste ébahie, comme éveillée en sursaut d'un rêve. Sortons, sortons, car le voici qui vient.
Petruchio, seul.
Ainsi j'ai commencé mon règne en profond politique, et j'espère arriver à bonne fin. Voilà mon faucon stimulé par les privations, et jusqu'à ce qu'il soit dressé, je ne veux pas le rassasier, car alors il ne serait plus attiré par le leurre. J'ai encore un autre moyen de dompter mon oiseau sauvage, et de lui apprendre à revenir et à connaître la voix de son maître. C'est de le tenir éveillé comme on tient le milan, qui se débat, résiste et ne veut pas obéir. Elle n'a rien mangé et ne mangera rien aujourd'hui. La nuit dernière, elle n'a pas dormi, elle ne dormira pas encore cette nuit. De même qu'au souper, je trouverai quelques défauts imaginaires à la manière dont le lit est fait. Et alors, je jetterai l'oreiller par ici, le traversin par là, la couverture d'un côté, les draps de l'autre, c'est cela. Et au milieu de ce tohu-bohu, je prétendrai que tout ce que j'en fais, c'est par prévenance et par sollicitude pour elle. Conclusion, elle veillera toute la nuit. Et s'il lui arrive de fermer l'œil, je pesterai, je braillerai, et je la tiendrai sans cesse éveillée par mes clameurs. Voilà comment on accable une femme par tendresse. Et ainsi je courberai son humeur violente et opiniâtre. Que celui qui sait mieux s'y prendre pour apprivoiser une sauvage dise son moyen. C'est charité de le faire connaître.
Il sort.
Scène 2. Padoue, un parc attenant à la maison de Battista, entre Tranio et Lucenzio.
Tranio. Est-il possible, amico, que Bianca ait du goût pour un autre que Lucenzio? Je vous répète, monsieur, qu'elle me donne les meilleurs encouragements.
Hortensio.
Monsieur, pour vous convaincre de ce que j'ai dit, tenez-vous à l'écart et observez la manière dont il lui donne sa leçon.
Ils se mettent de côté entre Bianca et Lucenzio.
Lucenzio. Eh bien, madame, profitez-vous dans vos lectures.
Bianca.
Et vous, maître, que lisez-vous? Répondez-moi d'abord à cela.
Lucenzio.
Je lis ce que je professe, l'art d'aimer.
Bianca.
Puissiez-vous, monsieur, être maître dans votre art?
Lucenzio.
Aussi longtemps, douce amie, que vous serez maîtresse de mon cœur.
Ils s'éloignent en causant.
Hortensio. Morbleu, c'est marcher lestement. Ah ça, qu'en dites-vous, je vous prie? Vous qui n'hésitiez pas à jurer que votre maîtresse Bianca n'aimait personne au monde autant que Lucenzio.
Tranio.
Oh dépit amoureux, oh sexe inconstant, je te le déclare, Licio, c'est étonnant.
Hortensio.
Cessez de vous méprendre, je ne suis pas Licio, ni un musicien comme j'en ai l'air. Je répugne à vivre plus longtemps sous ce déguisement, pour une créature capable de planter là un gentilhomme et de se faire un dieu d'un pareil malotru. Sachez, monsieur, que je m'appelle Hortensio.
Tranio.
Signor Hortensio, j'ai souvent ouï parler de votre profondeur d'affection pour Bianca, et puisque mes yeux sont témoins de sa légèreté, je veux avec vous, si vous le permettez, abjurer pour jamais Bianca et son amour.
Hortensio.
Voyez-les, que de baisers et de tendresse. Signor Lucenzio, voici ma main. Je m'engage fermement à cesser de lui faire la cour et à la renier, comme une créature indigne des hommages dont je l'ai follement flattée jusqu'ici.
Tranio.
Comme vous, je fais ici sans réticence le serment de ne jamais l'épouser, quand elle m'en supplierait.
Foin d'elle. Voyez quelle tendresse bestiale elle a pour lui.
Hortensio. Je voudrais que tout le monde, hormis lui, renonçât à elle. Quant à moi, pour être plus sûr de tenir mon serment, je veux me marier à une riche veuve, avant que 3 jours se passent. Oui, à une veuve, qui n'a cessé de m'aimer, tout le temps que j'ai aimé cette fière et dédaigneuse coquette. Et sur ce, adieu, signor Lucenzio. Dans la femme, c'est la tendresse, et non la beauté extérieure, qui désormais obtiendra mon amour. Je prends donc congé de vous, résolu à faire ce que j'ai juré.
Hortensio sort, Lucenzio et Bianca reviennent sur le devant de la scène.
Tranio. Madame Bianca, le ciel vous accorde tous les bonheurs que peuvent avoir les amants heureux. Ah, je vous ai surprise à faire la sieste, mamie, et nous avons, Hortensio et moi, renoncé à vous.
Bianca, vous plaisantez, Tranio.
Avez-vous vraiment renoncé à moi tous deux?
Tranio.
Oui, madame.
Lucentio.
Nous voilà donc débarrassés de Licio.
Tranio.
Ma foi, oui. Il va trouver une veuve plantureuse quand un jour il aura courtisé et épousé.
Bianca.
Dieu le tienne en joie.
Tranio.
Oh, il est bien sûr de l'apprivoiser.
Bianca.
À ce qu'il dit, Tranio.
Tranio.
D'honneur, il est allé à l'école où l'on apprend à apprivoiser.
Bianca.
Comment? Il y a une école comme celle-là?
Tranio.
Oui, madame. Et c'est Petruchio qui en est le maître. Il enseigne je ne sais combien de tours pour apprivoiser la femme la plus sauvage et pour exorciser une bavarde.
Biondello arrive en courant et prend Lucentio à part.
Biondello.
Oh, maître, maître, j'ai tant fait le guet que je suis échiné. Mais enfin, j'ai aperçu un angélique vieillard qui descendait la colline et qui fera l'affaire.
Lucentio.
Qu'est-il, Biondello?
Biondello.
Maître, c'est un négociant, ou un pédagogue, je ne sais pas quoi, mais la gravité de son costume, de sa marche et de sa contenance lui donne tout à fait la mine d'un père.
Lucentio.
Eh bien, après Tranio.
Tranio.
S'il est crédule et s'il a foi dans mes récits, je lui ferai prendre avec empressement le rôle de Vincenzo, et il se portera caution auprès de Battista Minola, comme s'il était le véritable Vincenzo. Emmenez votre bien-aimé et laissez-moi seul.
Lucentio et Bianca sortent. Entre un pédagogue.
Le pédagogue. Dieu vous garde, monsieur.
Tranio.
Et vous aussi, monsieur. Vous êtes le bienvenu. Poursuivez-vous plus loin ou arrêtez-vous ici votre voyage?
Le pédagogue.
Monsieur, je l'arrête ici pour une semaine ou deux. Et alors, je poursuis plus loin. Je vais jusqu'à Rome. Et de là à Tripoli, si Dieu me prête vie.
Tranio.
De quelle contrée, je vous prie?
Le pédagogue.
De Mantoue.
Tranio.
De Mantoue, monsieur. Morbleu, à Dieu ne plaise. Et vous venez à Padoue sans souci de votre vie.
Pédagogue.
De ma vie, monsieur. Comment cela? Voilà qui est sérieux.
Tranio.
C'est la mort pour tout habitant de Mantoue que de venir à Padoue. Est-ce que vous n'en savez pas la cause? L'embargo est mis sur vos navires à Venise, et notre duc, pour une querelle privée entre votre duc et lui, a fait publier et proclamer partout cette peine. C'est étonnant, mais si vous étiez venu un peu plus tôt, vous auriez entendu faire la proclamation.
Le pédagogue.
Hélas, monsieur, c'est d'autant plus triste pour moi que j'ai des lettres de change de Florence que je dois présenter ici.
Tranio.
Eh bien, monsieur, pour vous rendre service, je vais faire une chose. Voilà ce que je vous conseille. Mais d'abord, dites-moi, avez-vous jamais été à Pise?
Le pédagogue.
Oui, monsieur, j'ai souvent été dans Pise. Pise, renommée par ses graves citoyens.
Tranio.
Parmi eux, connaissez-vous un nommé Vincenzo?
Le pédagogue.
Je ne le connais pas, mais j'ai entendu parler de lui. Un marchand d'une incomparable richesse.
Tranio.
Il est mon père, monsieur, et, à dire vrai, il vous ressemble un peu de visage.
Biondello, à part.
Juste comme une pomme à une huître.
Tranio.
Pour vous sauver la vie dans cette extrémité, voici la faveur que je vais vous faire. Songez quelle bonne fortune c'est pour vous de ressembler à Vincenzo. Vous prendrez son nom, vous passerez pour lui, et vous serez logé en ami chez moi. Veillez à bien jouer votre rôle. Vous me comprenez, monsieur. Vous resterez chez moi jusqu'à ce que vous ayez terminé vos affaires dans la ville. Si cette offre vous oblige, monsieur, acceptez-la.
Le pédagogue.
Oh, volontiers, monsieur, et je vous considérerai toujours comme le protecteur de ma vie et de ma liberté.
Tranio.
Venez donc avec moi pour mettre la chose à exécution. Ah, à propos, je vous dirai que mon père est attendu ici chaque jour pour assurer par contrat la dot de la fille de Battista avec qui je me marie. Pour toutes ces circonstances, je vous mettrai au courant. Venez avec moi, monsieur, pour vous vêtir comme il sied.
Ils sortent.
Scène 3.
Chez Petruchio.
Entre Catarina et Grumio.
Grumio. Non, non, en vérité, je n'oserais pas sur ma vie.
Catarina.
Sa cruauté se révèle sans cesse par une vexation nouvelle. Quoi? Est-ce qu'il m'a épousée pour m'affamer? Les mendiants qui viennent à la porte de mon père n'ont qu'à prier pour obtenir aussitôt l'aumône. Leur refuse-t-on la charité? Il la trouve ailleurs. Même moi, qui n'ai jamais su supplier,
Je suis affamée faute d'aliments et défaillante faute de sommeil. Je suis tenue éveillée avec des jurons et nourrie de vacarme. Et ce qui me dépite plus encore que toutes ces privations, c'est qu'il fait tout cela au nom du parfait amour. Il semblerait à l'entendre qu'un peu de sommeil ou de nourriture serait pour moi une maladie mortelle, voire même la mort immédiate. Je t'en prie, va me chercher de quoi manger, n'importe quoi, pourvu que ce soit un aliment sain.
Grognon.
Que direz-vous d'un pied de veau?
Katharina.
C'est exquis. Je t'en prie, fais-moi avoir.
Grognon.
Je crains que ce ne soit une viande trop irritante. Et que diriez-vous de tripes grasses bien grillées?
Katharina.
Je les aime beaucoup. Bon, Grognon, va m'en chercher.
Grognon.
Je ne sais pas trop. Je crains que ce ne soit irritant. Que diriez-vous d'un morceau de bœuf à la moutarde?
Katharina.
C'est un plat dont j'aime me nourrir.
Grognon.
Oui, mais la moutarde est un peu trop échauffante.
Katharina.
Eh bien, la tranche de bœuf, et laisse la moutarde de côté.
Grognon.
Ah non, ça, je ne le ferai pas. Vous aurez la moutarde, ou vous n'aurez pas de bœuf de Grognon.
Katharina.
Eh bien, les deux choses, ou l'une sans l'autre, ou ce que tu voudras.
Grognon.
Soit, alors la moutarde sans le bœuf.
Katharina, le battant.
Va-t'en, décampe, fourbe qui te moque de moi. Ah, tu me nourris rien qu'avec le nom des plats. Malheur à toi et à toute la clique de ceux qui triomphent ainsi de ma misère. Allons, décampe, te dis-je.
Entre Petruchio, portant un plat de viande, et Hortensio.
Petruchio.
Comment va ma Katharina?
Comment, ma charmante, tout abattue?
Hortensio.
Madame, comment vous trouvez-vous?
Katharina.
Aussi froide que possible.
Petruchio.
Redresse tes esprits, regarde-moi gaiement. Tiens, amour, tu vois combien je suis empressée. J'ai préparé moi-même ton repas, et je te l'apporte.
Il met le plat sur la table.
Je compte bien, chère Katharina, que cette attention mérite un remerciement.
Quoi? Pas un mot?
Ah, je vois que tu n'aimes pas cela, et toutes mes peines sont en pure perte.
À un valet.
Allons, emportez ce plat.
Katharina.
Je vous en prie, laissez-le là.
Petruchio.
On paie de remerciements le plus pauvre service. Vous paierez le mien avant de toucher à ce plat.
Katharina.
Je vous remercie, monsieur.
Elle s'assied à table. Petruchio reste debout. Hortensio s'asseyant en face de Katharina.
Signor Petruchio, fille, vous êtes à blâmer.
Allons, madame Katharina, je vous tiendrai compagnie.
Petruchio va à Hortensio.
Mange tout, Hortensio, si tu m'aimes.
Oh, à Katharina.
Puisse ce repas faire du bien à ton petit cœur. Cato, mange vite. Et tout à l'heure, mon aimable rayon de miel, nous allons retourner chez ton père pour y traîner les plus belles parures. Les vêtements de soie, les toques et les bagues d'or, les fraises, les manchettes, les vertugadins, je ne sais quoi encore. Les écharpes, les éventails, les garnitures de rechange, les bracelets d'ambre, les colliers et tout le clinquant possible. Eh bien, tu as dîné? Le tailleur attend ton bon plaisir pour orner ta personne de ses plus riches falbalas.
Entre un garçon tailleur apportant une robe.
Petruchio.
Venez, tailleur, et voyons cette parure. Déployez la robe.
Entre un mercier apportant une toque.
Le mercier.
Voici la toque que votre honneur a commandée.
Petruchio.
Allons donc, elle est moulée sur une écuelle. C'est un vase de velours. Fi, c'est inconvenant et malpropre. Eh, mais c'est une coquille, une écaille de noix, un brimborion, un hochet, une attrape, une toque de poupon. Emportez-la, allons, donnez-moi une plus grande.
Katharina.
Je n'en veux pas de plus grande, celle-ci est à la mode. Les gentilles femmes portent ces toques-là.
Petruchio.
Quand vous serez gentille, vous en aurez une aussi, mais pas avant.
Hortensio.
À part.
Ce ne sera pas de si tôt.
Katharina.
Ah ça, monsieur, je compte bien qu'il me sera permis de parler, et je parlerai. Je ne suis pas une enfant ni un poupon. Des gens qui valaient mieux que vous ont enduré ma franchise. Si vous ne le pouvez pas, mouchez-vous les oreilles. Il faut que ma langue exprime le ressentiment de mon cœur, ou que mon cœur se brise en le comprimant. Plutôt que de m'exposer à cela, je prendrai en parole toute la liberté qui me plaît.
Petruchio.
Ma foi, tu dis vrai. Cette toque est affreuse. Une croûte de pâté, une bilvesée, un pâté de soie. Je t'aime de ne pas aimer cela.
Katharina.
Aimez-moi ou ne m'aimez pas. J'aime cette toque, et je l'aurai, et je n'en veux pas d'autre.
Petruchio.
La robe à présent. Allons, tailleur, montre-nous-la.
Oh, mon Dieu, miséricorde! Quelle est cette mascarade? Qu'est cela? Une manche? C'est comme une bombarde.
Quoi? Du haut en bas? Découpée comme une tarte aux pommes?
Piquée, surpiquée, taillée, crevée, trouée, comme une chaufferette dans la boutique d'un barbier? Oh, mon du diable, tailleur! Comment appelles-tu cela?
Hortensio à part.
Je vois qu'elle n'aura probablement ni toque ni robe.
Le tailleur.
Vous m'avez commandé de la faire soigneusement à la mode du jour.
Petruchio.
Oui, morbleu, mais si vous vous rappelez, je ne vous ai pas dit de la gâter à la mode du jour.
Allons, enjambez-moi tous les ruisseaux jusque chez vous. Vous n'emporterez pas ma pratique, messire. Je ne veux pas de cela. Allez, faites-en ce qu'il vous plaira.
Catarina.
Je n'ai jamais vu une robe de meilleure façon, plus élégante, plus charmante, ni plus comme il faut.
Il paraît que vous voudriez faire de moi une poupée.
Petruchio. C'est ma foi vrai. Il voudrait faire de toi une poupée.
Le tailleur.
Elle dit que c'est votre seigneurie qui voudrait faire d'elle une poupée.
Petruchio.
Oh, monstrueuse arrogance! Tu mens, fil, tu mens, dé, tu mens, verge, trois quarts, moitié, quart de verge, tu mens, clou, puce, ciron, grillon d'hiver. Je serai bravé chez moi par un écheveau de fil. Arrière, oripeau, arrière, chiffre arrière, reste, ou je vais te mesurer avec ta verge, de manière à te faire souvenir toute ta vie d'avoir bavardé. Je te dis, moi, que tu as gâté sa robe.
Le tailleur.
Votre seigneurie est dans l'erreur. La robe est parfaite, juste comme mon maître avait injonction de la faire. C'est Grumio qui a donné les ordres.
Grumio.
Je n'ai pas donné d'ordre, j'ai donné l'étoffe.
Le tailleur.
Mais comment avez-vous demandé qu'elle fût faite?
Grumio.
Parbleu, avec une aiguille et du fil.
Le tailleur.
Mais n'avez-vous pas recommandé qu'elle fût taillée?
Grumio.
Tu as toisé bien des étoffes, je suppose.
Le tailleur.
Oui.
Grumio.
Eh bien, ne me toise pas. Tu as bien fait des hommes superbes. Eh bien, tu ne fais pas le superbe avec moi. Je ne veux pas qu'on me toise, ni qu'on me brave. Je te répète que j'ai dit à ton maître de tailler la robe. Mais je ne lui ai pas dit de la tailler en pièces. Ergo, tu mens.
Le tailleur.
Eh bien, pour preuve de ce que je dis, voici le devis de la façon.
Petruchio.
Lis-le.
Grumio.
Le devis en a menti par la gorge, s'il dit que j'ai dit ça.
Le tailleur, lisant.
In primis, une robe à corsage ample.
Grumio.
À Petruchio. Maître, si jamais j'ai dit une robe à corsage ample, qu'on me couse dans la jupe et qu'on me batte à mort avec un peloton de fil brun. J'ai dit une robe.
Petruchio.
Continue.
Le tailleur.
Avec un petit collet arrondi.
Grumio.
Je confesse le collet.
Le tailleur.
Avec une manche large.
Grumio.
Je confesse deux manches.
Le tailleur.
Les manches minutieusement découpées.
Petruchio.
Oui, voilà l'infamie.
Grumio.
Erreur dans le mémoire, monsieur, erreur dans le mémoire. J'ai commandé que les manches fussent découpées d'abord et ensuite recousues. Et cela, je te le prouverai quand ton petit doigt serait armé d'un dé.
Le tailleur.
Ce que je dis est vrai. Si je le tenais ailleurs, je te le ferais reconnaître.
Grumio.
Je suis à ta disposition, sur le champ. Munis-toi du mémoire, passe-moi ta verge et ne me ménage pas.
Hortensio.
Dieu me pardonne, Grumio. La partie ne serait pas égale.
Petruchio au tailleur.
Ah ça, monsieur, en deux mots, cette robe n'est pas pour moi.
Grumio à Petruchio.
Vous avez raison, monsieur. Elle est pour ma maîtresse.
Petruchio.
Allons, emporte-la et remets-la à disposition de ton maître.
Grumio au tailleur.
Marot, ne t'en avise pas. Mettre la robe de ma maîtresse à la disposition de ton maître.
Petruchio à Grumio.
Eh bien, monsieur, quelle idée vous prend?
Grumio.
Oh, monsieur, l'idée est beaucoup plus sérieuse que vous ne pensez. Mettre la robe de ma maîtresse à la disposition de son maître.
Oh, fi, fi, fi.
Petruchio bat à Hortensio.
Hortensio, veille à ce que le tailleur soit payé. Oh, allez, emporte ça, décampe et plus un mot.
Hortensio bat au tailleur.
Tailleur, je te payerai ta robe demain. Ne prends pas en mauvaise part ces paroles un peu brusques. Va-t'en, te dis-je. Mes compliments à ton maître.
Le tailleur sort.
Petruchio. Allons, venez, ma Catarina. Nous allons nous rendre chez votre père, dans ce simple et honnête accoutrement. Nos bourses seront superbes, si nos habits sont humbles. C'est l'âme qui fait la richesse du corps.
Et de même que le soleil darde à travers les nuages les plus sombres, de même l'honneur perce à travers le plus pauvre vêtement. Quoi? Le jais est-il plus précieux que l'alouette, parce que ses plumes sont plus belles? Ou la vipère vaut-elle mieux que l'anguille, parce que les couleurs de sa peau charment le regard? Ah non, ma bonne Cato, tu ne perds rien de ton prix dans ce pauvre équipage et sous cette humble toilette. Si c'est une honte à tes yeux, mets-la à ma charge. Ainsi, sois jovial. Nous allons partir pour moqueter et nous amuser chez ton père.
Agrumi.
Va, appelle mes gens et mettons-nous en route. Amène nos chevaux au bout de la grande allée, c'est là que nous monterons en selle. Nous irons à pied jusque-là. Voyons, il est, je crois, environ 7 heures. Nous pouvons fort bien arriver là-bas pour dîner.
Katharina.
J'ose vous assurer, monsieur, qu'il est près de 2 heures et nous n'arriverons pas avant l'heure du souper.
Petruchio.
Il sera 7 heures avant que je monte à cheval. Voyez, dans ce que je dis ou fais ou veux faire, vous êtes toujours à me contrecarrer.
À ces gens.
Mes maîtres, laissez-nous. Je ne partirai pas aujourd'hui. Et quand je partirai, il sera l'heure qu'il me plaira de dire.
Hortensio.
Oui, da, ce galant-là veut commander au soleil.
Il sort.
Scène 4. Devant la maison de Battista, entre Tranio et le pédagogue sous le costume de Vincenzo.
Tranio.
Monsieur, voici la maison. Vous plaît-il que j'appelle?
Le pédagogue.
Ah oui, que faire sans cela? Si je sais bien mon rôle, le signor Battista peut se rappeler m'avoir vu il y a près de 20 ans à Gênes, où nous logions tous deux à l'hôtel de Pégase.
Tranio.
C'est bien cela. Et tenez-vous en tout cas avec l'austérité que convient à un père.
Entre Biondel.
Le pédagogue.
Je vous le garantis.
Mais, monsieur, voici votre page qui vient. Il serait bon de lui faire la leçon.
Tranio.
Rassurez-vous sur lui. Morbleu, Biondello, voici le moment de bien faire ton devoir, je t'en avertis. Figure-toi que c'est le vrai Vincenzo.
Biondello.
Bah, soyez sans inquiétude.
Tranio.
Mais as-tu fait ta commission auprès de Battista?
Biondello.
Je lui ai dit que votre père était à Venise et que vous l'attendiez aujourd'hui même à Padoue.
Tranio.
Tu es un gaillard immense. Tiens, voilà pour boire. J'aperçois Battista. Prenez votre contenance, monsieur.
Entre Battista et Lucenzo. Tranio.
Signor Battista, heureux de vous rencontrer.
Au pédagogue.
Monsieur, voici le gentilhomme dont je vous ai parlé. Je vous en prie, soyez à mon père à mon égard. Donnez-moi bien un cas pour mon patrimoine.
Le pédagogue.
Doucement, mon fils.
À Battista.
Monsieur, avec votre permission, étant venu à Padoue pour recouvrer quelques dettes, mon fils Lucenzo m'a mis au courant d'une importante affaire d'amour entre votre fille et lui-même. Or, vu les bons rapports qui me parviennent sur vous, vu l'amour qu'il porte à votre fille, et qu'elle lui porte, pour ne pas le faire attendre trop longtemps, j'accorde dans ma sollicitude paternelle mon consentement à son mariage. Et si vous êtes disposé aussi favorablement que moi, monsieur, nous ferons nos conventions, et vous me trouverez tout prêt et tout porté à approuver cette union avec votre fille. Car je ne puis pas être méticuleux avec vous, signor Battista, dont j'ai entendu tant de bien.
Battista.
Monsieur, pardon de ce que je vais vous dire. Votre franchise et votre concision me plaisent beaucoup. Il est très vrai que votre fils Lucenzo, ici présent, aime ma fille et qu'il est aimé d'elle, ou bien tous deux dissimulent profondément leurs sentiments. En conséquence, vous n'avez qu'à promettre de vous conduire en père envers lui et qu'à assurer à ma fille un doux air suffisant. Et le mariage est conclu et c'est chose faite. Votre fils sera ma fille avec mon consentement.
Tranio.
Je vous remercie, monsieur. Où désirez-vous que nous soyons fiancés et que le contrat soit dressé, conformément aux conventions des parties?
Battista.
Pas chez moi, Lucenzo, car, vous savez, les murs ont des oreilles et j'ai nombreux domestiques. Et puis, le vieux Grémio est toujours aux écoutes et il se pourrait que nous fussions interrompus.
Tranio.
Alors, ce sera dans mon logis, si vous le trouvez bon, monsieur. Là réside mon père. Là, ce soir même, nous terminerons l'affaire à merveille entre nous. Envoyez chercher votre fille par le valet qui vous suit, et mon page ira immédiatement quérir le notaire. Le pire de l'affaire, c'est que, faute d'avoir été prévenu à temps, vous risquez fort de trouver une maigre et chétive pitance.
Battista.
Votre proposition me plaît.
À Lucenzo.
Cambio, vous allez courir à la maison, dira Bianca de se tenir prête. Apprenez-lui, si vous voulez, ce qui se passe. Que le père de Lucenzo est arrivé à Padoue, et que selon toute probabilité, elle sera la femme de Lucenzo.
Lucenzo.
Je prie les dieux qu'elle le soit, et de tout mon cœur.
Tranio.
Ne badine pas avec les dieux et pars.
Signor Battista, vous montrerai-je le chemin?
Vous êtes le bienvenu, mais un seul plat sera sans doute tout votre souper.
Venez toujours, nous ferons mieux les choses à Pise.
Battista,
je vous suis.
Sortent Tranio, le pédagogue, et Battista.
Biondello à Lucenzo qui s'en va.
Cambio.
Lucenzo revenant.
Que dis-tu, Biondello?
Biondello.
Vous avez vu mon maître cligner de l'œil et vous sourire?
Lucenzo.
Qu'est-ce que cela voulait dire, Biondello?
Biondello.
Rien, ma foi. Mais il m'a laissé ici en arrière pour expliquer le sens et la moralité de ses signes et de ses gestes.
Lucenzo.
Voyons leur moralité.
Biondello.
La voici.
Battista est en lieu sûr, causant avec le père Postige d'un fils illusoire.
Lucenzo.
Et après?
Biondello.
Sa fille doit être amenée par vous au souper.
Lucenzo.
Et ensuite?
Biondello.
Le vieux prêtre de l'église Saint-Luc est tout à l'heure à vos ordres.
Lucenzo.
Et la fin de tout cela?
Biondello.
Voici tout ce que je puis vous dire. Tandis qu'ils sont occupés à dresser un faux contrat, assurez-vous d'elle, vous. Cum privilegio et ad imprimendum solum. Et puis, à l'église. Ayez un prêtre, un clerc et quelques témoins suffisamment honnêtes. Si ce n'est pas là l'occasion que vous attendez, je n'ai plus qu'à vous conseiller de dire adieu à Bianca pour l'éternité et un jour.
Il va pour s'éloigner.
Lucenzo.
Écoute, Biondello.
Biondello.
Je ne puis rester plus longtemps. Je connais une fille qui a été mariée une après-midi comme elle allait au jardin chercher du persil pour farcir un lapin. Vous pourriez bien l'épouser de même, monsieur. Et sur ce, adieu, monsieur.
Mon maître m'a enjoint d'aller à Saint-Luc, dire au prêtre de se tenir prêt pour le moment où vous arriverez avec votre appendice.
Il sort.
Lucenzo.
Je puis, et vu tout cela, pourvu qu'elle y consente. Elle en sera charmée. Pourquoi donc en douterais-je?
Advienne que pourra. Je vais l'aborder rondement.
Et Cambio jouera de malheur si elle revient sans elle.
Il sort.
Scène 5.
Une route. Entre Petruchio, Catarina et Hortensio.
Petruchio.
En marche, au nom de Dieu! Remettons-nous en marche vers la maison de notre père.
Seigneur, comme la lune est brillante et sereine.
Catarina.
La lune?
Ah, c'est le soleil.
Il n'y a pas de clair de lune à présent.
Petruchio.
Je dis que c'est la lune qui brille si vivement.
Catarina.
Je sais que c'est le soleil qui brille si vivement.
Petruchio.
Ah, par le fils de ma mère, c'est-à-dire par moi-même, ce sera la lune, ou une étoile, ou ce que bon me semblera, avant que je continue ma route pour aller chez votre père. Allons, qu'on ramène nos chevaux, sans cesse contrariés et contrariés, toujours contrariés.
Hortensio bat à Catarina.
Dites ce qu'il dit ou nous ne partirons jamais.
Catarina.
De grâce, poursuivons notre chemin puisque nous sommes venus si loin, et que ce soit la lune, le soleil ou ce qu'il vous plaira, et s'il vous plaît de l'appeler un lumignon, je vous jure que c'en sera un pour moi.
Petruchio.
Je dis que c'est la lune.
Catarina.
Je le sais bien.
Petruchio.
Alors vous mentez. C'est le soleil béni.
Catarina.
Alors Dieu soit béni. C'est le soleil béni. Mais ce n'est plus le soleil quand vous dites que ce n'est pas lui. Et la lune change au gré de votre pensée. C'est exactement ce que vous voudrez. Et ce le sera toujours pour Catarina.
Hortensio.
Petruchio, va ton chemin, la campagne est à toi.
Petruchio.
En avant, en avant. Ainsi la boule doit courir, sans se laisser maladroitement dévoyer par l'obstacle.
Mais doucement. Qui vient ici?
Entre Vincenzo, en envie de voyage.
Petruchio à Vincenzo.
Bonjour, gentille dame.
Où allez-vous?
Dis-moi, suave Caterina, dis-moi franchement, as-tu jamais vu une femme plus fraîche? Quelle guerre de blanc et de rouge sur ses joues! Les étoiles diamantent-elles le ciel aussi splendidement que ses deux yeux par cette figure céleste? Aimable et jolie fille, encore une fois bonjour. Suave Catarina, embrasse-la pour l'amour de sa beauté.
Hortensio.
Elle va rendre cet homme fou à vouloir en faire une femme.
Catarina.
Jeune vierge en bouton, fraîche et suave beauté, où vas-tu? Où est ta demeure?
Heureux les parents d'une si jolie enfant.
Plus heureux l'homme à qui les astres favorables te destinent pour rendre compagne de lit.
Petruchio.
Eh bien, qu'est-ce à dire, Cato? Tu n'es pas folle, j'espère. C'est un vieil
vieillard raidé, fané, flétri que tu vois, et non une vierge comme tu dis.
Catarina.
Vieux père, pardonne à mes yeux leur méprise. Ils ont été tellement éblouis par le soleil que tout ce que je vois me paraît vert. Je m'aperçois à présent que tu es un vieillard vénérable. Pardon, je te prie de ma folle méprise.
Petrucchio.
Oui, pardon, mon vieux aïeul. Dis-nous quel chemin tu dois suivre. Si c'est le même que nous, nous serons heureux de ta compagnie.
Vincenzo.
Beau sire, et vous, ma joyeuse dame, qui m'avez si étrangement surpris par votre premier abord, mon nom est Vincenzo. Ma demeure est à Pise, et je me rends à Padoue pour y voir un mien fils que je n'ai pas vu depuis longtemps.
Petrucchio.
Quel est son nom?
Vincenzo.
Lucenzo, gentil sire.
Petrucchio.
La rencontre est heureuse, surtout pour ton fils. Sache en effet que la loi, aussi bien que ton âge vénérable, m'autorise à te appeler mon père bien-aimé. La sœur de ma femme, de cette dame que tu vois, a en ce moment épousé ton fils. N'en sois ni surpris ni affligé. Elle est de bonne renommée, richement dotée et de naissance honorable. D'ailleurs, douée de telles qualités qu'elle serait la digne épouse du plus noble gentilhomme. Embrassons-nous, vieux Vincenzo, et faisons route ensemble pour voir ton estimable fils qui sera bien joyeux de ton arrivée.
Et Vincenzo.
Tout cela est-il vrai ou vous amusez-vous, en voyageur goguenard, à faire des plaisanteries aux gens que vous rencontrez?
Hortensio.
Je t'assure, vieillard, que c'est la vérité. Allons, viens avec nous pour t'en assurer toi-même, car je vois que notre premier béninage t'a rendu défiant.
Sortent Petrucchio, Catarina et Vincenzo.
Hortensio. Fort bien, Petrucchio. Voici qui m'a donné du courage. Je cours près de ma veuve, pour peu qu'elle soit revêche, tu m'auras appris à être intraitable.
Et sort.